France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je suis Dominique Viss, je suis né le 30 août 1955 à Lisieux dans le Calvados et je suis contre-ténor ou haute contre, c'est comme ça vous plaît.
Di Poppea, acquietati anima mia, sarai ben custodita.
Je me demandais, Dominique Viss, quelle était la part de distanciation que vous aviez par rapport à ces rôles. On entend la berceuse d'Arnalta, voilà, des moments comme ça canoniques, mais des musiques qui peuvent être tellement chavirantes, vous-même qui êtes tellement investi sur la scène. Est-ce que de temps en temps, on a peur de s'y perdre ou pas?
Oui, de temps en temps, on a peur de se perdre. Mais justement, vous évoquez Arnalta, ça c'est justement le rôle sur lequel... On peut parler par rapport à ce que vous évoquez du drame et du comique. Parce que ce personnage-là, il est comique et d'un seul coup, il y a cette berceuse qui arrive de nulle part et qui est tellement profonde, tellement dramatique, quoi. On lui chante à l'oreille, mais c'est tellement bien écrit. Donc vous devez passer d'un registre à l'autre et c'est le propre des. Mais de la plupart des rôles comiques, c'est comme ça. C'est qu'il y a toujours des. Parce que souvent, les rôles comiques sont les fous du roi qui existent depuis la nuit des temps. Donc ils sont là pour amuser les puissants et pour leur évoquer, pour leur donner une autre vision de la vie, une autre philosophie. Donc ils le font avec une gestuelle particulière, avec des mouvements particuliers, en essayant d'amuser la galerie. Mais souvent, le propos, il est très profond et dramatique. Et l'écueil, justement, dans ces rôles-là, c'est d'être trop comique et de vouloir jouer les comiques. Parce que vous lisez tous les clowns, hein, c'est pas malin ce que je dis, mais c'est qu'il faut juste être soi-même. De même que le travestissement, il ne faut jamais, enfin, à mon avis, j'ai eu de leçons à donner à personne, mais qu'il ne faut pas essayer de marcher, si vous êtes un homme et que vous jouez une femme, ne pas essayer de marcher comme une femme. Ça ne fonctionne pas. D'abord parce que vous ne pouvez pas. De même avec la tessiture. Tous les rôles travestis, si vous essayez de chanter comme une mezzo, même pour le meilleur contre-ténor de la planète, vous ne pouvez pas chanter aussi bien qu'une mezzo. C'est pas possible. Et réciproquement, les femmes qu'on travestit, moi ça me fait mal par exemple, tous les rôles travestis des femmes qui chantent des rôles d'hommes, on leur écrase les seins, quoi. Ça me. D'un seul coup, c'est ni une femme ni un homme, c'est plus rien.
Ça devrait être une femme alors qui joue un homme, ouais, qu'elle accepte voilà, sa féminité, jouer un homme.
J'ai fait Poppée aux Champs-Élysées avec Antonacci. C'est une femme qui est tellement sensuelle, tellement... Et quand elle jouait Néron, de toute façon, on s'en foutait qu'elle soit habillée comme un homme, qu'elle marche comme un homme. C'est juste elle. Elle était Néron.
Vous avez évoqué, Dominique Viss, la péniche opéra, Mireille Laroche, des grandes années d'expérimentation. Est-ce que c'est aussi au cœur de ce bateau amarré à Paris que vous vous êtes rapproché de l'univers contemporain? Parce qu'on a parlé de la musique ancienne, qui est évidemment un très grand pan de votre répertoire, mais il y a son pendant, parce que d'une certaine façon, souvent, ça va ensemble aussi, la musique ancienne et la musique contemporaine. Et la musique contemporaine, c'est très important aussi dans votre vie de musicien. Je me demandais si jamais les prémices étaient nées dans cette péniche opéra, ou bien étaient nées quand vous étiez organiste et que vous goûtiez aussi à la musique d'aujourd'hui.
Oui, il y a quelques prémices que j'ai pu appréhender quand j'étais organiste. J'ai dû jouer des pièces assez modernes. Et puis, il se trouve que j'ai fait certains stages aussi d'été à Aix-en-Provence avec Darras, grand organiste, et qui lui était très féru de, à la fois de musique ancienne, grand improvisateur, et très féru de musique contemporaine. Donc, je suis arrivé au stage d'Aix, je me souviens, et il m'a mis une partition de Lee Sang-yoon, il s'appelait, compositeur coréen. Il a déjà illisible, quoi, le langage musical que je n'avais jamais vu. Donc c'est quand même par là que ça a commencé. Et après, effectivement, c'est à la péniche opéra que j'ai pu apprendre, et notamment le pont qu'on continuait d'ailleurs d'utiliser entre la musique ancienne et la musique contemporaine, qui est plus facile, en fait, tout simplement parce que vocalement, instrumentalement, c'est juste plus facile. Et puis après, j'y ai pris goût, quoi. Et surtout, ça a pallié le manque d'enseignement que j'ai eu par rapport à la technique vocale. C'est que là, ça m'a donné une ouverture sur le fait que moi-même, je pouvais chercher en ma voix des choses que je ne connaissais pas et des clés que même un professeur chant, en fait, ne pouvait pas me donner, que j'étais le seul à pouvoir appréhender. Donc, je suis entré là, et là, ça a duré, voilà, pendant 25 ans, quoi, avec Mireille Laroche. Et il y avait une telle, on est frères et sœurs, quoi.
L'esprit d'avant-garde aussi.
C'est ça, oui.
Sur ce répertoire contemporain, après, à l'opéra, dans des grandes œuvres, les rencontres aussi qui ont été importantes, vous évoquiez là quelques compositeurs. Il y a aussi eu des œuvres de Kagel, de Berlioz, de Dussapin. Qu'est-ce que vous en gardez de ça et au contact de ces compositeurs, vous qui avait cherché ces compositeurs en copiant la musique ancienne, vous les cherchiez derrière le manuscrit. Là, l'encre est encore même pas sèche et vous les avez avec vous.
Oui, mais c'est un peu la même démarche, sauf qu'elle est plus complexe, évidemment. Pour Kagel, ce qui est formidable, parce que j'ai fait plusieurs fois, c'est Jean-Claude Malgoire, la première fois, qui m'a demandé de faire cette pièce-là. Donc déjà, face à rejoindre l'histoire du langage, on reçoit une partition.
Mare Nostrum.
Oui, Mare Nostrum, on ne sait pas comment ça fonctionne. Il faut déchiffrer. Et après, la pièce, on ne sait pas. Il y a beaucoup de chanter-parler dans le chant de pièce. C'est comme Schoenberg. J'ai fait pas mal le Pierrot Lunaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous écoutez ça dans l'enregistrement, les Allemands ont une façon de le faire. Puis après, avec le décalage du contre-ténor, comment on fait sur les passages? Qu'est-ce qu'on chante? Qu'est-ce qu'on ne chante pas? Qu'est-ce qu'on parle? Donc ça pose beaucoup de questions. Et puis bon, les deux autres que vous avez évoqués, évidemment, Outis de Berlioz, La Scala, ça c'est pour raconter l'histoire quand même. J'étais à France Inter pour un spectacle avec la péniche opéra, et je me retrouve pour vendre le spectacle. Et assis à côté de moi, il y a Berlioz. Donc voilà, donc on parle chacun de notre truc, et il se trouve, le hasard total, c'est que sur ma moto, j'avais le dernier disque qui venait de sortir au Japon, où il y avait une pièce Sequentia de Berlioz qui était dessus. Alors je dis, excusez-moi maître, est-ce que vous permettez, je viens d'enregistrer un disque sur lequel il y a une pièce de vous, est-ce que vous permettez que je vous la donne? Donc je lui donne le disque, et voilà, on part chacun de notre côté. Une semaine après, il m'appelle, il me dit, voilà, est-ce que vous acceptez, lui-même, est-ce que vous acceptez de chanter dans mon prochain opéra Outis à la Scala de Milan? En fait, bon. Alors, évidemment, j'ai dit oui. Après, ils avaient quelques réticences par rapport à la puissance vocale. Parce que c'est quand même grand orchestre. Puis la Scala, c'est grand. Donc voilà, c'était magique. Donc, ils m'ont convoqué. Ça, c'est génial. Ils m'ont convoqué dans un studio de cinéma à Milan. Une journée, j'ai retrouvé avec l'orchestre. J'étais sur un promontoire à 10 mètres de haut. Avec un bout de partition que j'avais apprise. Et ils voulaient juste savoir si je passais au-dessus de l'orchestre. Donc ça a été positif, j'y suis allé, voilà, c'était... Parce qu'en fait, c'est un personnage très emblématique et quand même très fermé, puis avec qui c'était pas facile de communiquer. Là, j'ai passé mon temps sur scène, à la Scala, toute la scène tournée, c'était très compliqué techniquement, et j'étais tout le temps à côté d'un petit enfant avec une mezzo, avec qui je chantais, je ne savais pas qui était qui. Je ne savais pas qui j'étais, je ne sais pas qui chantait, quels étaient les personnages, tout simplement, et les autres non plus.
Mais Outis, on ne dit pas que c'est personne.
Oui. Oui, mais quand même, il y a des duos. C'est toujours le même personnage. Pourquoi avec celle-là? Pourquoi? Et en fait, j'avais un nom, je ne sais plus le nom. Et en fait, je me trouve assis à côté de lui au Châtelet. Et je dis, permettez-moi juste, j'aimerais bien, qui je suis dans l'opéra? Quel personnage je dois interpréter? Il me regarde et me dit, tu es la réincarnation de Shakespeare. Donc c'était pire. Après, je ne savais plus où j'étais. Voilà. L'homme de fumée à la Bastille, avec du sapin, c'était une grande expérience aussi. Ou là, pour rejoindre ce que vous disiez sur la musique contemporaine, c'est que du sapin, qui est évidemment un grand compositeur, mais quelqu'un aussi de très malin, très intelligent, il y avait un moment dans la pièce où je devais chanter très haut. Et je lui avais dit, parce que là, ces gens-là travaillent très en amont, en fait, on reçoit la partition un an avant. Et là, vous recevez la partition, et là, il y a carrément le copiste qui vous dit, dites-moi tout de suite s'il y a des choses trop hautes, trop basses, et j'en réfère au compositeur, et après, on arrange pour vous. Donc, en fait, rien n'a changé, sauf qu'il y avait une note dans la partition qui n'était pas écrite. Il y avait juste une croix. Et en fait, j'ai compris en présentation, par rapport à la mise en scène, tout était déjà calculé dans sa tête, c'est qu'il voulait que je fasse la note la plus aiguë, mais elle n'était pas écrite. Et en fait, j'ai fait un si bémol aigu, c'est une note que je peux pas faire si j'y pense, quoi. C'est juste impossible. Et en fait, il a eu l'intelligence de l'écrire et de penser à ne pas écrire la hauteur de la note pour faire une note au-dessus de ce que je n'avais jamais fait et de ce que je n'ai jamais pu refaire, d'ailleurs.
Ah, extraordinaire, finalement, le fait de ne rien dire libérait la possibilité, oui, d'une folie.
Et c'est toute la question et c'est tout l'enjeu. Enfin, un des enjeux de la musique contemporaine, c'est d'arriver à vous libérer pour appréhender des terrains que vous ne connaissez pas.
On parlait d'avant-garde tout à l'heure, de cet esprit-là. Ça fait partie de votre personnalité, d'aimer plonger, en fait. Vous aimez ce vertige-là.
Oui, bah absolument. Mais la découverte, évidemment, je ne sais pas si on a ça en nous, parce que, étant donné qu'on a toujours vécu ça, donc je ne sais pas si c'est déterminé au départ ou si on y a pris goût. Mais c'est évidemment un rare privilège d'ouvrir une partition, surtout que à l'époque baroque, les partitions sont très succinctes, quoi. Mmh. Parfois, vous n'avez, pour emmener au couement de Popée, en fait, on ne sait pas ce qu'est réellement de Monteverdi, quand même. Ce ne sont que deux copies, Naples et Venise, qui existent, et il manque l'orchestration, il manque beaucoup de choses, et notamment les orchestrations dans tout ce qui est opéra vénitien. En général, elle n'y est pas, quoi. Vous avez le chant, parfois quelques ritournelles, et la basse, et c'est tout. Et après, il faut tout reconstruire. Et après, l'histoire des tonalités. Tout est écrit en ré mineur, enfin majeur, et on sait qu'à l'époque, ils ne prenaient pas de gants avec ça, quoi. Il n'y avait pas de... Maintenant, on est trop frileux avec ça. On veut qu'il y ait des... Même sur les disques, maintenant, il faut passer d'une tonalité à l'autre sans choquer. Enfin, pour prendre un exemple, par exemple, quand j'ai fait le premier opéra que j'ai fait à Garnier, l'Offenbach, Orphée, là, je devais chanter Cupidon, et bon, voilà... Et j'ai le copiste qui m'appelle, pareil, le copiste, qui me dit « En quel ton vous voulez chanter vos airs ?» Donc là, je suis tombé de ma chaise, je savais pas que ça existait. C'est que pour eux, la tradition existait encore de la nuit des temps, de savoir que la hauteur n'existe pas, en fait. Le diapason avant n'existait pas, mais en plus, la hauteur n'existe pas. Donc on vous appelle juste pour demander, et après, c'est eux qui se débrouillent. Donc, en plus, c'est évidemment un rôle de... Pour soprano, je pouvais pas chanter, donc j'ai chanté en je sais plus quoi, en fa dièse mineur, je sais pas quoi. Et en fait, aucun problème. Ils l'ont incorporé, ils ont fait les... Donc ça, on a perdu cette notion-là. Et je trouve qu'on est trop frileux avec ça. Heureusement, maintenant, il y a quand même certains chefs, notamment sud-américains, italiens, tout ça, qui sont bouillonnants et tout ça, qui prennent moins de gants pour que les tonalités soient... Mais ça, c'est une notion romantique qu'il faut qu'on essaie d'effacer maintenant, quand même. Thank you.
France Musique, l'écran entretien de Dominique Wyss.
Il y a cet ensemble Clément Jeannequin, fondé en 1978. Dominique Wyss, 40 ans, plus de 40 ans. Un ensemble comme ça sur la durée, ça tient comment, j'allais dire, artistiquement, hein, en dehors même de questions d'argent. C'est parce que c'est un groupe vraiment d'amis, c'est devenu une famille.
Ben oui, en fait, ça tient à rien. Et c'est pour moi très étonnant qu'on soit toujours là. C'est effectivement au départ, évidemment, comme j'ai évoqué tout à l'heure, plus un groupe au départ de quatre curieux qui veulent appréhender un répertoire qu'ils ne connaissent pas. Puis après, ça a fonctionné très vite, quoi. Donc on a toujours eu ce côté, un immense bonheur de chanter ensemble. La polyphonie, c'est pour moi la chose qui me tient le plus à cœur. Et même avec le temps, j'ai toujours un tel plaisir de rechanter encore les mêmes pièces qu'on a fait des centaines de fois. Il n'y a rien à faire, quoi. Ça me prend à chaque fois. Donc au départ, c'est vraiment un groupe de rock, quoi. C'est des copains qui sont là, qui font un groupe. Et c'est vrai qu'au départ, on a eu envie de faire comme un groupe de rock, à faire un groupe où ça sonne entre nous. Quatre personnes qui avaient des techniques totalement différentes, des univers totalement différents, même musicaux. Donc c'était une association comme ça, et on a très très vite trouvé nos marques, quoi, en respectant chacun. Et ça a fonctionné comme ça, mais évidemment, au bout d'une dizaine d'années, ça fait comme dans tout bon groupe de rock, ça a explosé, mais vraiment explosé. Parce qu'on partait en tournée, enfin, on faisait des tournées absolument magiques, quoi. On allait sur toute la planète, et c'était riche, c'était en plus l'époque privilégiée, on avait le temps, il y avait qu'un concert tous les trois jours, on était pris en charge, on voyageait, enfin bon. Et puis un jour, enfin, une tournée, ça s'est arrêté. On n'avait plus du tout envie, quoi. Ni du voyage, ni du concert. Donc en fait, c'est pour ça que je dis, ça tient un fil. Ça s'est arrêté. Parce qu'on était trop soudés. Donc on a dit, on arrête. Mais il se trouve que dans le groupe, il y avait Bruno Boterf, un jeune ténor. Et lui qui venait d'arriver, était très heureux dans le groupe. Il ne comprenait pas notre démarche. Qu'on ait fonctionné comme ça et que ça marchait quand même vraiment bien, quoi. Qu'on arrête. Et j'ai dit, bon, ok, on y retourne. Mais après, se poser la question, parce qu'il n'y avait plus personne, quoi. À part un ténor et moi. Donc, il fallait tout reconstruire. Et en fait, on est allé, et là, on a quand même passé quand même plusieurs années un petit peu difficiles. Et puis après, il a été, depuis une bonne quinzaine d'années, il a été refondu avec un groupe plus restreint, avec des gens qui sont là depuis 20, 25 ans, 30 ans, quoi, quand même. Et tant que la voix fonctionne, même si elle fonctionne évidemment moins bien qu'à mes 20, 30, 40 ans, ben je continue, c'est vital pour moi.
C'est une angoisse, ça, la voix qui un jour peut-être s'arrête?
Ah oui, c'est une angoisse, parce que c'est angoisse par rapport à ce que je viens d'évoquer, c'est pas que la voix s'arrête, hein. Moi, je suis énormément privilégié, je chante, j'irai revoir ma Normandie dont j'ai parlé, j'ai chanté ça il y a 54 ans quand même, et j'ai toujours chanté depuis. Et je me souviens, quand j'étais adolescent, je me projetais, si je pouvais chanter pendant 50 ans, même à la fin, pour pouvoir chanter, ce serait vraiment magnifique. Et en fait, j'ai dépassé. Mais ça, oui, ce qui est angoissant pour moi, c'est pas le fait d'arrêter, c'est tout ce qui arrive, comme là, Josquin des Prés, quoi. Je chante des programmes tellement magnifiques, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Et il y a plein de, la situation maintenant est difficile, mais d'un autre côté, ça génère un tas de projets qu'on n'avait pas vu arriver et qui demande beaucoup de travail et beaucoup d'excitation. Et en fait, c'est très excitant. Donc, je me sens là comme un ado, comme j'étais avant. Donc, si ma voix s'arrête, quoi, ben, voilà, c'est tout ça qui s'arrête. C'est pas, moi, j'ai pas d'ego par rapport à la voix, je suis tout sauf une diva. Mais c'est le fait que tout ce qu'il y a devant moi puisse s'arrêter, que je ne puisse pas y participer autant que je le voudrais.
Thank you.
musique aujourd'hui de votre quotidien, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas sur une production ou en train d'enregistrer un disque, mais que vous musiquez pour vous, vous chantez, vous jouez encore d'un clavier quelconque, de flûte. Je vous ai vu avec une basse électrique. Vous faites d'autres choses aussi. Nous n'avons pas entendu, mais qui vous occupe d'autres styles de musique.
Effectivement, je joue la basse électrique. C'est un fantasme de ma jeunesse, parce que j'appartenais au, entre parenthèses, groupe de rock du lycée quand j'étais interne. Et en fait, j'étais nul. Je jouais le clavier, je savais pas quoi faire. Et en fait, ça m'est resté en travers de la gorge. Et quand j'ai eu un peu plus de temps, voilà, je m'achète une basse, il faut que je le fasse. Et en fait, je m'éclate complètement tout seul avec ma basse. Mais bon, il se trouve que j'ai fait des concerts avec, quoi. Pour moi, c'est très excitant parce que je suis très admiratif. Voilà. Enfin, c'est enfoncer les portes ouvertes de dire que voilà, il n'y a pas de frontières dans la musique, que ce soit la variété, que ce soit le rock, que ce soit le rap, tout ça c'est pareil. Donc je suis quand même très admiratif de tous ces gens qui font de la musique, de tous ces gens qu'on dénigre parfois, qui font soi-disant une chansonnette, mais qui chantent tout par cœur et qui s'accompagnent en même temps, qui dansent et qui... Il y a quand même des... Je trouve ça hallucinant. Et sinon, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, je fais des choses que j'ai, notamment l'édition, là, quoi. Là, j'en prends pour 10 ans, quoi. Et aussi, je vis maintenant avec une chanteuse coréenne, Yoon-hee Kim, qui m'apprend justement à me calmer. Qui a une autre philosophie, évidemment, d'où elle vient. Et pas seulement à cause du confinement, mais ça a aidé. Et juste le fait de prendre le temps d'apprécier ce qui vous entoure, de ne pas vous précipiter sur l'ordinateur, de ne pas vous précipiter sur la prochaine transcription, sur le programme. Alors en fait, vous avez tout le temps. Et après, même dans la cuisine, ça m'a pris des années. J'ai toujours fait la cuisine. Et en fait, mais j'ai toujours fait comme on voit dans les cuisines des chefs, toujours avec une espèce d'anxiété. Alors qu'en fait, non, on a tout le temps. Tout le temps. Et ça se passera mieux si vous le prenez. Donc j'apprends, je deviens philosophe et voilà, j'apprends simplement à profiter de l'air du temps. Enfin, c'est tout con de dire ça, mais les oiseaux, la nature, les gens qui passent et surtout à écouter. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé écouter les gens parce que je suis renfermé. Mais de plus en plus, c'est ça qui me manque dans la vie que j'ai eue, c'est de ne pas avoir plus écouté les gens. Appris à les écouter davantage. Parce qu'on a une espèce de boulimie, malgré nous, évidemment, mais passer tellement dans des endroits fantastiques, rencontrer tellement de gens riches que j'ai pas su assez en profiter. Donc maintenant, j'essaie de faire attention. Si j'ai un rêve, c'est justement que de transmettre tout ce que dans mon ordinateur, tout ce que j'ai transcrit. Mais je voudrais même les enregistrements, que tout puisse s'effacer quand je pars. Que les gens puissent recommencer ce fabuleux chemin que nous, on a connu. De pas trop justement laisser d'empreintes sur la façon de chanter telle pièce, parce que je trouve qu'il y a trop d'empreintes par rapport à l'apprentissage. On apprend, même moi le premier, quand on apprend un opéra, on apprend sur un disque, quoi. Et c'est pas bien, parce que... On perd une partie de son âme, donc je voudrais en laisser le plus possible par rapport à ce qui est écrit, mais le moins possible par rapport à ce qui est éphémère, à savoir le son de la voix et le son de la musique.
What If a Day de John Dolan par Eric Belloc au luth pour terminer cette série des grands entretiens avec Dominique Viss, réalisation Lionel Quentin, prise de son Jason Taos, mixage Benjamin Vignal, attaché de production Flora Sternadel. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste.
À réécouter sur francemusique.fr.